Donc, j'ai dit qu'il y a certains points que je vais essayer de laisser concernant la superficie, la localisation du site, de la réserve, peut-être avec la carte que je vais présenter, on va essayer de mieux comprendre. Donc, le mien, c'est-à-dire que ma présentation sera axée sur l'impact, comme je l'ai dit, de l'arboriculture, plus précisément des plantations d'anacardes, qu'on appelle chez nous aussi Atian, en anglais on parle des cashews. Ces plantations, quel est leur impact par rapport à la préservation de la réserve et faune d'Abdoulaye? Bon, voilà le résumé en quelque sorte de ce que je vais présenter. Donc, nous allons beaucoup plus on va plus s'appesantir sur le côté foresterie, et côté biodiversité et côté aménagement. Côté écosystème, comme Mohamed a présenté, bon, ça ne m'a pas tellement intéressé, moi, dans mon domaine, mais toutefois, c'est une complémentarité. Donc, par rapport aux politiques de conservation de la biodiversité et de l'environnement en général, le Togo s'est attelé dans ça depuis des années. Et si nous prenons cette réserve, ce n'est pas à ce temps qu'elle a été délimitée, c'est depuis les temps coloniaux que cette réserve a été délimitée. Mais à l'époque, la manière dont elle était, c'était carrément une zone forestière, mais suite à l'impact de la population la plus proche, que ce soit les braconniers, des animaux ou bien des végétaux, à la recherche du bois pour faire les planches et aller vendre tout ça là, ça a entraîné que la forêt a commencé à se dégrader. Mais toutefois, au Togo, il a une période particulière qui a tellement marqué la vie de l'environnement, pour ne pas dire les forêts ou bien la foresterie au Togo. Dans les années 90, où les gens se sont révoltés pour se dire qu'ils devaient se rendre justice, parce que la préservation, la manière dont on conservait l'environnement ou bien les forêts avait un impact plus ou moins négatif sur la population, parce qu'à l'époque, tuer un animal était un tabou, aller abattre un arbre d'une façon ou d'une autre était un tabou. Donc du coup, à un moment donné, les gens se sont révoltés, mais sans savoir que cette révolte aurait des impacts beaucoup plus négatifs qu'on le pensait. Donc c'est ce qui a entraîné que presque sur toute l'étendue du territoire togolais, on a vu ces catastrophes liées à la déperdition des forêts, que ce soit même les forêts les plus préservées, que ce soit comme Abdoulaye, et comme Parc Fazao, Oti Mandouri, et tous ces aires protégées ont suivi presque les mêmes, effets. Donc, nous, on s'est dit, pour voir ce qui s'est fait depuis les années 90, on a essayé de voir descendre ces périodes-là en trois. Donc, à l'époque où cette étude a été faite, c'est dans les années 2012. Donc, on a vu l'évolution des forêts de 90 à 2000 et de 2000 à 2010 à travers les images satellites. Voilà sur quoi on s'est attelé à commencer par y mettre des hypothèses, aller vérifier sur le terrain et avant de conclure ce qui s'était passé réellement et ce que nous sommes en train de vivre. Donc, j'ai essayé de faire mon introduction, mais toutefois, l'exposé va se poursuivre en présentant d'abord le site, le matériel d'étude, la méthodologie, les résultats, discussions et la conclusion qui est en même temps jumelée aux perspectives. Donc, la réserve de faune d'Abdoulaye, c'est elle ici. Elle se situe dans la région centrale du Togo. Le pays est divisé en 5 régions. La région maritime, région des plateaux, région centrale, région de la Kara et région des savanes. Et notre site d'étude se situe dans la zone éco-floristique ou écologique 3, comme l'a déjà présenté Mohamed. Et cette zone, actuellement, on peut dire qu'elle est en danger parce qu'à un moment donné, on a constaté la déperdition des forêts, comme je l'ai déjà dit en introduction. Donc, sur la carte, et j'espère qu'on peut se situer parce qu'il y a l'Afrique, il y a le Togo en entier et cette partie qui est colorée sur la carte du Togo en bleu. Et c'est ça qu'on a essayé un peu de développer au milieu qui est la région centrale. Et au niveau maintenant de la région centrale, on a isolé la préfecture et plus précisément aussi cette forêt, cette réserve. Comme l'un des intervenants avait posé la question sur le plan faune, effectivement, c'était une réserve de faune. Mais actuellement, tout comme animal ou végétal, on peut dire que ce n'est plus c'est comme c'était. Donc, on trouvait presque tous les animaux, comme l'a su dire Mohamed. Actuellement, il disait que selon le conservateur, il a un couple d'éléphants. Bon, sinon, il a les gibiers, pour ne pas dire les biches, les antilopes, les hippotragues et les rongeurs de toutes formes, c'est-à-dire les olacotes, les agoutis, comme on l'appelle chez nous ici, les lièvres. Bon, il en a. Mais sauf que le braconnage continue. Il faut des moyens de préserver comme il le faut. Donc, Forêt d'Abdoulaye a une situation un peu particulière parce que cette zone est carrément entourée par des villages qui sont contigus à la limite de la forêt. Donc, il y a des moments où même des prélèvements se font directement. Et malgré tout ce qu'on s'est dit, malgré tout ce qu'on essaie de faire pour préserver, c'est un peu difficile. Et il a une route qui traverse actuellement en quittant la ville qu'on appelle la Djengré pour aller vers Tchamba, très proche de Goubi ou Bago, si je ne me trompe pas. Donc, entre-temps, il a même eu un village qui a été installé au sein même de la réserve. Mais c'est dans les années, il me semble, 2000 ou avant 2000 que le village a été délogé. Actuellement, même il a les vestiges dedans. Il a des salles de classe, tout ça là, qui sont restées dans la forêt. Bon, un peu à quelle sorte, voilà ce qui a contribué un peu à la dégradation de cette forêt. Donc, comme matériel d'étude, vous allez voir que j'ai présenté cachiou, que les gens, si certains ne se retrouvent pas, voilà, l'anacardium. Le nom scientifique, c'est Anacardium occidental. C'est une espèce qui actuellement a pris un peu de l'ampleur par rapport à l'arboriculture. La noix est tellement prisée dans la sous-région, c'est-à-dire l'Afrique occidentale. Il a carrément une campagne qui est en train de vouloir pousser la population à faire de façon individuelle ou grouper des plantations par rapport aux revenus de ces noix. Et il a aussi le faux fruit que vous voyez, qui aussi est prisé. Actuellement, les gens commencent pas à faire du jus, qui est sur le marché. Et en bas, vous allez voir l'image d'une forêt. Mais cette forêt est carrément monocole, ou bien monoculture plutôt. C'est une forêt de plantation d'anacarde. Bon, maintenant, quel est l'impact? Comme on l'a dit dans notre titre, quel est l'impact? Dans certaines localités, comme j'avais dit, il y a des villages qui sont tellement contigus. Il y a Alibi, il y a Goubi, Koussoun, tout ça là. Nous avons essayé de faire, disons, nos recherches. On a essayé d'interroger la population autochtone et voir actuellement, selon eux, quel est l'impact. Avant de nous-mêmes, avant d'analyser comme il le faut, on a d'abord essayé d'interroger la population pour voir l'impact de cette plantation. Et l'impact, selon leur réponse, est que dans les temps un peu plus reculés, dans les périodes un peu plus reculées, pour survivre, beaucoup s'adonnaient à des pratiques de braconnage, d'abord les animaux. Certains coupent le bois pour faire des planches, d'autres coupent pour faire du charbon de feu, qu'on utilise dans les cuisines. Et du coup, au moment où ils ont commencé par faire des plantations d'anacardes, beaucoup trouvent plus des bénéfices à travers la vente des noix cajou. Donc, du coup, ils ont commencé par s'éloigner de cette activité de braconnage. Donc, les villages que j'ai mis là-bas, c'est des villages qui sont tous autour de la zone. Bon, sur le plan biodiversité, voilà nos méthodes les méthodes que nous avons utilisées, faire des parcelles et essayer de voir par parcelle ou bien à l'hectare combien d'espèces on peut trouver, bon, etc., etc. Donc, c'est suite à cela, on a eu ces résultats. Et on a eu à classer aussi les forêts denses que nous avons, les forêts galeries, les forêts claires, les savanes boisées, les savanes arbustives et autres, etc., etc. Donc, c'est pour répondre un peu à la question qu'on avait posée à Mohamed par rapport à ces zonations qui sont faites. Donc, bon, pour l'image qui vient de passer, c'était ça. Donc, l'image qui est en train de suivre, nous présentons l'image satellite de l'occupation des sols en 1990. Et avant de commenter, je vais présenter les autres images. Ça, c'est en 2000. Et ici, nous sommes en 2010. Bon, par comparaison, on a essayé de voir comment la forêt a été dégradée, la vitesse de la dégradation de la forêt. C'est ça qu'on observe. Bon, c'est des images satellites. C'est d'ici là tout le monde de comprendre ou bien de voir ce qui est en train de se faire. Bon, bien ce qui se fait. On a constaté que de 2000, de 90 à 2000, la vitesse de la dégradation de la zone a été beaucoup plus grande que celle constatée de 2000 à 2010. C'est-à-dire qu'à partir de 2000, les gens ont commencé à s'intéresser aux plantations d'anacardes. Donc, du coup, bien sûr que la forêt continue à être dégradée, mais la vitesse de dégradation est moindre. Bon, à travers ces images, ça n'a pas coïncidé les mêmes. Au moment où les photos ont été faites, ce n'est pas les mêmes périodes, mais quand même, bon, on a essayé avec les spécialistes d'interpréter les images et bon, c'était les conclusions qui ont été tirées. Ici, bon, on a, faute d'avoir une image ces derniers temps, on n'a pas pu avoir une image satellite, on a pris juste l'image Google. Bon, c'est un peu flou, mais si on prête un peu attention, vous allez voir la forêt Abdullah, la réserve d'Abdullah qui est toujours là. C'est là partout où, jusqu'à actuellement, la végétation est un peu plus dense par rapport aux autres zones aux alentours de la réserve. Bon, à part les forêts galeries, vous allez voir que au-delà de la réserve d'Abdoulaye, presque tout est dégradé. Et bon, voilà, c'est des résultats, mais malheureusement, l'image n'est pas claire. Donc, c'est tout ce qui est ici que nous présentons, c'est ce qu'on a déjà. On a essayé déjà de dire, la migration annuelle entre 90 et 2000 est de 16,47% au niveau des forêts denses et au niveau des forêts galeries 11,38%. Par contre, entre 2000 et 2010, c'est à 5,37 et 2,94. Donc, le taux de régression a fortement diminué. Donc, sur le plan environnemental, comme moi j'avais présenté premièrement, les formes d'occupation actuelles des sols et des superficies, on constate au-delà des forêts qu'on avait citées, il y a aussi des zones d'agriculture qui ont quand même augmenté. Il y a les zones des habitats et aussi, bon, des jachères qu'on n'a pas mentionnées ici. Bon, en bref, c'est pour dire que même si la forêt continue d'être préservée, la population augmente et du coup, les gens ont aussi besoin d'espace pour habiter. Donc, c'est un point qu'on ne doit pas négliger dans la préservation des réserves ou bien des forêts. La population augmente. Du coup, pour s'alimenter aussi, on a besoin de plus de surface pour embraser. Et bon, etc., etc. Donc, sur le plan social, on a fait des répartitions, des répondants selon le sexe. Et tout le monde a eu quand même à dire, bon, de façon générale, les femmes sont beaucoup plus impliquées dans les collectes des noix de cajou. C'est-à-dire que si la préservation de nos réserves ou bien la réserve de faune d'Abdoulaye est beaucoup plus axée sur le fait que les femmes sont plutôt occupées dans les forêts et dans les plantations, mais aussi dans une usine qui est installée actuellement à Tchamba, la main-d'œuvre est spécialement les femmes. Or, et on a constaté que pour chercher à acheter du carbone, du charbon de bois ou bien même à le produire, c'est les femmes qui sont beaucoup plus impliquées là-dedans. Donc, du coup, du fait qu'elles sont occupées ailleurs, ces problèmes sont un peu plus évités, quoi. Bon, ici, c'est par rapport toujours à l'ANACAT, c'est le prix, l'évolution du prix. Jusqu'en 2012, on s'est arrêté en 2012, puisque c'est au moment où on a fait l'enquête. Mais en 2016-2017, le prix de vente des noix de cajou sont allés même jusqu'à 1 200 le kilo. C'est encore pour montrer l'importance de cette plantation. Et ce qui fait que tout le monde maintenant s'adonne à ces plantations. Mais ce qu'on on risque de perdre maintenant, c'est la biodiversité. C'est la biodiversité. C'est-à-dire que plus on fait des plantations d'anacades, plus on utilise les superficies et plus on détruit les espèces naturelles. Donc, c'est là-bas qu'on trouve un danger dans les années à venir. Ou bien on a déjà commencé par constater. Et si vous voyez l'image des femmes dans cette usine, bon, juste pour essayer de montrer comment les femmes sont utilisées par l'ANACAT. Bon, merci, on évolue. La superficie des plantations d'ANACAT à l'époque, en 2008, quand on a commencé, c'est ça on a essayé d'évaluer, mais actuellement, ça a dépassé, ça a même doublé, voire même triplé. Bon, par rapport à la biodiversité, on se pose la question, en dehors des superficies qu'on utilise pour faire pour installer des plantations d'anacate, est-ce que l'arbre même en tant qu'anacate, anacadium occidental, a des effets sur la préservation de la biodiversité? Je m'explique. Supposons qu'on plante l'arbre là quelque part. Est-ce qu'il va contribuer à détruire d'autres espèces? Comme le cas des tequerets, quand vous prenez une plantation de tec, à un moment donné, aucune espèce n'est en dessous. Ça devient nuit et juste le tec survit. Donc, c'est ce qui nous a amené à aller faire des inventaires dans des plantations abandonnées. Toujours dans la zone de Tchamba, il y a des plantations de l'État qui sont restées là-bas, personne ne s'est approprié. Donc, du coup, on n'entretient pas. Et on était quand même surpris de voir qu'il y a des espèces pionnières, d'autres espèces qui sont développées, même dépassées, ces plantations, ces arbres dans la cadre, ces bien ces filles dans la cadre. Donc, du coup, on conclut que sur le plan biodiversité, l'arbre n'agit pas. Mais c'est quand on entretient plutôt la plantation qu'on est obligé de détruire les autres espèces qui poussent afin de pouvoir garder ces plants d'anacadie qui plutôt vont nous donner des noix qu'on va commercialiser. Donc, j'ai déjà commencé la discussion. L'arboriculture, de façon générale, c'est bon. Mais sur le plan biodiversité, on voit que détruire une forêt naturelle, 10 hectares, voire même 100 hectares, pour remplacer par une seule espèce, ce n'est pas aussi conseillé, ce n'est pas du tout bon. Mais si cette espèce peut retenir au moins les gens d'aller détruire le reste de la forêt, c'est quand même conseillé que de laisser karma et ne rien faire. Donc, comme conclusion et perspective, c'est vulgariser et conseiller les populations riveraines de toutes les aires protégées, que ce soit Togo, n'importe où, sur la préservation de ces aires à travers des actions qu'on voit, bon, sans le savoir, c'est un peu anodin, mais quand même, ça contribue. Et l'arboriculture, surtout, celle de l'anacardion occidental. Comme je l'ai dit au Togo, actuellement, ceux qui ont ces plantations sont mieux par rapport à ceux qui n'en ont pas. Et la région du sud Togo, on parle de café cacao, mais quand on dépasse déjà la région des plateaux où le soleil dépasse ou bien la période de sécheresse, la saison sèche est plus longue que la saison des pluies. Là-bas, c'est les plantations d'anacarde qui sont plus disons aptes. Donc, on peut l'utiliser dans les jachères, on peut l'utiliser sur des surfaces un peu des cuirasses latéritiques pour conserver au moins ne serait-ce que les zones nues et limiter la désertification. Bon, merci. J'ai essayé de présenter en un temps record quand même ce que nous avons essayé de mettre devant vous et devant nous, des questions par rapport à l'anacarde, par rapport à la préservation. Nous sommes là pour essayer de répondre. Et s'il y a aussi des suggestions à faire, nous allons les recevoir. Merci.